le magazine des Nations Unies. Le bureau conjoint des Nations Unies, préoccupé par l'augmentation des violations droits de l'homme en RDC, notamment la restriction de l'espace politique et des libertés démocratiques en RDC. Plus de 3800 violations en 2015. Mais entre-temps, le gouvernement et la MONUSCO signent un accord de coopération pour en découdre avec les groupes armés encore actifs dans la partie est du pays. Et puis l'UNICEF recherche 2,8 milliards de dollars américains pour assurer l'appui humanitaire d'au moins 43 millions d'enfants dans le monde en 2016. Cet appel a été lancé mardi à Genève. La chargée des urgences à l'UNICEF RDC nous en parle dans cette édition. Les réfugiés centrafricains de la cité de Hango dans les Bas-Uélés en colère. Ils réclament leur ration alimentaire pour le mois de janvier. Les péripéties de ce soulèvement ainsi que les solutions dans Nouvelles de province.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
La nouvelle de la semaine, c'est la publication mercredi à Kinshasa lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies du rapport annuel 2015 sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Un rapport qui s'articule autour de deux tendances. Une tendance plutôt positive, reconnaissant les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la violation des droits de l'homme. Une tendance négative également, celle de la commission des violations de ces droits, aussi bien par les groupes armés que par les agents étatiques. Honoré Misenga Kalala nous en dit plus.
Commençons par les pages noires de ce rapport. Le bureau conjoint dit avoir documenté au cours de l'année dernière exactement 3847 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire congolais, soit une augmentation de 64% par rapport à 2014. Une situation dramatique, estime José Marie Aranaz, directeur du BCNUDH. Et les types de violations les plus courantes ont été les atteintes à la liberté et à la sécurité des personnes, les atteintes à l'intégrité physique, ainsi que les exécution extrajudiciaire. Quant à la responsabilité de la commission de ces différentes violations, le rapport l'attribue aux agents étatiques pour 49% ainsi qu'aux groupes armés opérant dans l'est du pays pour le reste. Sur ce tableau noir, le bureau conjoint a noté plus particulièrement une tendance de plus en plus prononcée vers les derniers mois de l'année par les services de l'État de restreindre l'espace politique et les libertés démocratiques au détriment de l'opposition, la société civile et les médias. Mais le rapport du bureau conjoint présente aussi l'autre face de la médaille, la volonté des autorités congolaises de se mettre au diapason de la protection et la promotion des droits de l'homme. La mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, l'adhésion du pays à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son protocole facultatif, et l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur la mise en œuvre du statut des Roms de la CPI, autant d'actes, en plus de la condamnation d'au moins 244 éléments FRDC et 65 de la FNC pour la commission des violations des droits de l'homme, preuve de cette bonne volonté manifestée en 2015 par le gouvernement.
Autre actualité de la semaine, c'est la signature jeudi dernier à Kinshasa d'un accord de coopération militaire entre le gouvernement congolais et la MONUSCO pour la reprise des opérations dans l'est de la RDC. D'après la RTNC, la télévision publique, les forces de la MONUSCO apporteront un appui logistique et militaire au FARDC lors des opérations contre les groupes armés encore actifs dans la région.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Renverser la tendance de l'urgence en développement durable des populations sorties des conflits, c'est en tout cas le but principal d'un projet mis en place par le PAM et la FAO en RDC. Il s'agit d'un projet d'appui aux petits agriculteurs locaux afin d'augmenter leur capacité de production et leurs revenus. À l'étape de Goma, Sifa Maguru a interrogé Pablo Decalde. Il est représentant de la FAO sur le projet. Suivez leur entretien.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Présentez-vous s'il vous plaît.
Pablo Recalde, le représentant du PAM et de la FAO à l'intérim dans la République du Congo.
Merci. Vous êtes à Goma aujourd'hui où vous êtes venu lancer le programme d'appui aux petits producteurs agricoles dans la province du Nord Kivu. Peut-on d'abord savoir en quoi consiste cet appui et pour quel objectif?
Alors, l'appui, ça fait partie d'un projet de 28 millions de dollars à peu près que la FAO et le PAM ont mis ensemble pour appuyer la chaîne des valeurs agricoles de petits et moyens agriculteurs. Le projet vise, en fait, à augmenter la capacité à augmenter les échanges commerciaux, la production moyenne des gens qui travaillent dans un environnement qui produisent 70% de tous les aliments du pays et qui en fait concentrent presque 90% de la totalité des travailleurs agricoles au pays. Donc en fait, c'est extrêmement important comme une source de développement dans le futur. En fait, je dois dire que le secteur agricole aussi concentre, le petit moyen agriculteur concentre 70% des femmes dans la partie productive. Donc en fait, c'est vital comme moteur de développement.
Est-ce qu'on peut savoir cet appui ou ces projets, disons, son coût s'élève à combien et c'est environ combien de populations qui sont ciblées?
Alors, le projet qu'on a lancé aujourd'hui, ça fait partie de ces plus grands programmes. C'est un projet d'à peu près 1 million d'euros financé par la coopération belge qui, en fait, nous accompagne depuis 2010 au développement de chaînes de valeur agricole des petits et moyens agriculteurs. Il va toucher dans la zone à peu près 16 000 ménages et on espère certainement qu'on puisse multiplier le ciblage de ces projets dans les années à venir.
Parlez-nous de la chaîne des valeurs. Comment ça va se présenter?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire la chaîne des valeurs? C'est ce que nous attendons de dire, c'est il faut, si on produise seulement, si on transforme seulement, et on n'a pas une capacité de commercialiser, donc de donner à la population la capacité de vendre le produit, on n'a pas vraiment complété la chaîne de valeur agricole. Donc la chaîne de valeur, ça veut dire qu'il faut améliorer la productivité, la production moyenne, il faut améliorer la transformation de produits, le stockage, il faut améliorer l'accessibilité aux zones de production et il faut assurer un marché pour la production. Avec ça, avec cette chaîne de valeur, on arrive à donner aux petits et moyens agriculteurs sa valeur ajoutée, à lui payer, à elle payer l'investissement qu'elle a fait comme un investisseur agricole et à donner aux gens à manger des produits à un prix abordable. Donc c'est en fait tout le processus de provisionnement de marché des denrées alimentaires au niveau du pays.
Si nous parlons de l'impact qui est déjà observé dans les Katanga où ce projet s'est déjà effectué comme projet pilote, qu'est-ce que vous avez constaté d'abord sur le plan commercial? Comment ces populations se sont retrouvées avec ce projet?
Alors, soit dans le nord de Katanga, soit en Équateur où on a aussi commencé le même projet depuis 4 ans avec le support de la coopération belge et de la France, on a constaté deux choses. De façon générale, la cohésion sociale il s'est énormément multipliée. On a une croissante participation de la femme dans le processus productif et aussi dans le processus de gestion de la communauté. On a une croissante capacité productive, donc la capacité productive par exemple au niveau de Ushuru, il a augmenté 5 à 6 fois dès le début du projet. Et on a vu aussi que la communauté commence à se prendre en charge, par exemple, les OP, les organisations paysannes, ils ont quand même mis un peu d'argent de côté et ils commencent à s'aider de façon communautaire et dans des cas de problèmes échéants de un ou autre membre. Et donc, nous, on voit que les gens, ils commencent à se développer à eux-mêmes. Et c'est la seule façon que ça puisse se passer. Et donc, pour moi, c'est en fait cette collaboration entre déjà la FAO, le PAM et le gouvernement du Congo et de façon majoritaire, les populations ciblées. C'est le but du développement. Et c'est là-dedans, par exemple, que le PAM, avec la FAO, on a créé un pont structurel entre c'est ce que nous achetons pour donner à manger aux gens un grand besoin et des déplacés internes, de réfugiés, et les gens, des petits producteurs qui sont des gens pauvres, mais qui ne sont pas la cible de l'humanitaire. Donc, on fait un pont entre le développement et l'humanitaire. Et c'est par là que je vois la sortie de la crise au niveau du Congo. Au nord Katanga, il y a deux communautés qui, à une distance de 150 km, une des communautés y vit encore dans le besoin, dans le désespoir, et la communauté qui a été ciblée par le projet, il est devenu une communauté qui se prend en charge, une communauté qui voit le futur, une communauté où ils ont imposé la paix à eux-mêmes.
où ils ne laissent pas que leurs jeunes aillent à devoir s'évadent à la violence pour pouvoir survivre, mais en fait, ils s'évadent au développement, ils s'évadent à l'amour. Et ça, pour moi, c'est vraiment le but de le projet.
Mm-hmm. D'une manière générale, les petits agriculteurs font face à d'énormes difficultés. Si nous prenons, par exemple, la fixation du prix sur le marché, ils produisent beaucoup, ils donnent tous leurs efforts, mais pour ne rien gagner au niveau du marché. Est-ce que ce projet va aider au moins les agriculteurs du Nord Kivu, les petits agriculteurs, à se retrouver aussi dans la fixation du prix sur le marché?
Et l'expérience qu'on a eue dans les autres deux zones de projet, ça a été exactement ça. Que du moment que les organisations paysannes s'organisent entre eux, ils commencent à ce moment déjà à augmenter le volume, la qualité et aussi, à un certain moment, c'est de mettre une commercialisation conjointe. Donc, les intermédiaires commerciaux, ils sont plus en capacité de venir à imposer un prix. Maintenant, tous les OP, ils vendent à un prix qu'ils ont déjà développé ensemble. Donc là, ils ont une capacité de marchandage. Et en plus, étant donné que nous devenons aussi partie de marché, on peut les aider. Donc à terme, ils voient qu'on peut en fait définir un marché d'échanges commerciaux. Je pense que c'est aussi une des questions sur lesquelles le projet est en train de faire son travail.
Et par rapport au défi des manques d'infrastructures, qu'est-ce que vous avez pensé à cette difficulté?
Tout à fait. Je pense que ça, c'est une des questions qu'immédiatement le ministre aujourd'hui m'a posé du moment qu'on parlait sur la question. Déjà, le PAM développe avec la FAO des parties de ce projet qui c'est l'accessibilité. Mais au-delà de ça, on a un projet qui se focalise sur l'ouverture de routes de dessert agricole. Et c'est des routes qui nous, au niveau, par exemple, du programme alimentaire mondial, on l'utilise pour pouvoir acheminer les produits là où on a besoin pour les distributions. Mais derrière nous, il y a des camions commerciaux qui ont déjà acheté des produits et ils vont en fait les vendre au marché. Donc, on met notre foin ensemble, les besoins humanitaires avec les besoins de développement.
Merci beaucoup, M. Pablo.
Merci beaucoup, Madame, pour l'interview. Merci.
Un peu plus de 2000 enfants, dont 139 filles, ont été séparés ou se sont échappés des groupes armés en 2015. Information livrée par la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Ces chiffres représentent, selon la source, plus du double des données enregistrées l'année précédente en 2014. Ils reflètent non seulement l'effectivité des opérations militaires, mais aussi les actions entreprises par la MONUSCO, les partenaires gouvernementaux et la société civile pour mettre fin au recrutement des enfants et assurer leur réinsertion sociale. Plus au sud-est du pays, précisément à Moba, dans la province du Tanganyika, des fortes pluies qui se sont abattues ont fait près de 2000 sinistrés la semaine dernière. La majorité des personnes laissées sans abri ont trouvé refuge dans des familles d'accueil. D'autres passent même la nuit à la Belle Étoile. Plus de 300 maisons se sont écroulées, de nombreuses autres sont encore sous les eaux selon une évaluation faite par la Croix-Rouge Moba. Ces intempéries ont également dévasté des centaines d'hectares de champs. Les sinistrés ont urgemment besoin des vivres, soins médicaux et de l'eau potable, alerte OCHA.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions en titre, 2,8 milliards de dollars américains en 2016, c'est en tout cas le montant dont a besoin l'UNICEF pour appuyer l'assistance humanitaire à plus de 43 millions d'enfants pris dans des crises humanitaires. L'appel à cet appui humanitaire a été lancé mardi dernier à Genève. Quelles sont les priorités de l'UNICEF? Quelle est la place de la RDC dans cet appel humanitaire pour les enfants? Et quelles sont finalement les stratégies de collecte des fonds? Jean-Pierre et Lali Coco reçoit pour vous Madame Brigitte Pedro, elle est responsable des urgences à l'UNICEF RDC. Suivez leur entretien.
Madame Brigitte Pedro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des urgences à l'UNICEF République démocratique du Congo. L'UNICEF lance un appel de 2,8 milliards de dollars pour les enfants. Alors madame, la première question c'est pourquoi une telle demande?
Malheureusement, on aimerait bien ne pas avoir à faire ces demandes, mais le monde est quand même confronté à des multiples crises sur l'ensemble des continents, principalement sur les continents africains et sur la partie Moyen-Orient, qui sont les continents les plus affectés. Malheureusement, ces crises affectent principalement les enfants. Donc, dans le cadre de son mandat, UNICEF fait un appel de 2,8 milliards de dollars pour assister des millions de familles et des millions d'enfants qui sont affectés par ces crises.
Votre domaine de prédilection, c'est les enfants, madame. Combien d'enfants sont-ils aujourd'hui pris dans la situation humanitaire dans le monde?
Alors, dans le monde aujourd'hui, ce plan en fait vise à atteindre 76 millions de personnes, dont 43 millions d'enfants. On sait que pratiquement dans toutes ces crises, les enfants paient un lourd tribut de toutes ces violences et ça représente souvent plus de 50% de la population.
En Afrique, vous pouvez estimer à combien le nombre d'enfants qui vivent dans des situations humanitaires difficiles?
Oui, il doit y avoir plus de 20 millions d'enfants parce que comme l'appel concerne quand même une grosse partie du continent, donc ça doit bien représenter peut-être 50% de l'appel.
Et quelles sont bien sûr les causes de ces crises humanitaires? Humanitaire à répétition.
Alors, la principale crise aujourd'hui, c'est quand même la crise syrienne qui affecte non seulement la Syrie, mais tous les pays limitrophes. On sait qu'il y a quand même plus de 7 millions de réfugiés syriens qui ont quitté la Syrie. Donc, c'est une crise d'ampleur importante, même énorme. Je ne sais pas si on a eu des crises de ce type-là avant. C'est pratiquement tout un pays qui se vide. Donc, c'est absolument énorme en termes d'échelle. Donc, il y a la crise syrienne qui représente, sur ces 2,8 milliards de dollars d'appels, il y a plus de 1,2 milliard de dollars qui sont uniquement pour la crise syrienne. Après, on a les crises qui sont liées à des conflits récurrents, principalement en Afrique, donc tout le Sahel avec ses problèmes de sécheresse et aussi de troubles, de crise avec conflits, l'Afrique centrale et puis des parties, donc là il y a l'Ukraine aussi qui est aussi un pays qui peut participer.
Et le Yémen aussi.
Le Yémen, tout ce qui concerne l'Irak, le Soudan, le Sud-Soudan, donc toute cette partie-là. C'est la bande du Sahel en fait qui va de l'Est à l'Ouest de l'Afrique.
Oui, justement vous parliez de la Syrie, pourquoi privilégier ces pays, les enfants de ces pays alors que le phénomène migratoire et même la crise humanitaire frappe tout autant le pays africain par exemple?
Alors je pense pas que ça soit plus les enfants syriens qui soient privilégiés, c'est-à-dire que l'ampleur, le nombre d'enfants syriens est effectivement
plus élevé
en termes de nombre, on en a quand même beaucoup, donc effectivement comme la crise est importante, automatiquement on va aussi vers la crise syrienne. C'est pas spécialement qu'on privilégie la Syrie parce qu'on privilégie aussi l'ensemble des autres pays, il faut se rappeler quand même, la RDC fait partie des top 5 des pays qui sont dans l'appel. Donc en fait, s'il y a plus de 2 milliards de dollars qui sont pour la Syrie, pour la crise et ces pays limitrophes, la RDC a un appel à 130 millions de dollars, c'est quand même énorme, et qui le place à la 3e ou 4e place de l'appel.
Voilà.
Donc c'est quand même important.
Oui, on va revenir sur la RDC. Alors, quelles sont les priorités de l'UNICEF dans la répartition de cet appui humanitaire aux enfants? Est-ce qu'il y a des priorités que vous avez retenues?
Alors, les priorités sont effectivement l'accès à l'éducation, qui est quand même extrêmement important. D'autant plus important, c'est qu'en général, les écoles ou les salles de classe sont des environnements protecteurs pour les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui contribue à la protection de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un des éléments clés de la réponse. Il y a aussi tout ce qui concerne les soins de santé primaires.
La nutrition.
L'accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Bien sûr, la protection de l'enfant au sens très très large du terme. Donc à la fois sur aussi de l'enregistrement des naissances et aussi sur la protection contre les violences sexuelles. Tous ces éléments-là qui sont partis aussi du mandat d'UNICEF.
Madame Brigitte Pedro, mobiliser près de 3 milliards de dollars, il faut dire que c'est pas facile, hein, au regard des déficits budgétaires des pays donateurs et des quelques bailleurs de fonds. Quelles sont les stratégies que l'UNICEF entend déployer pour mobiliser ces fonds?
Alors déjà, il y a l'appel en lui-même, donc cet appel qui a été fait à Genève il y a deux jours, donc qui permet aussi de mobiliser l'ensemble de la communauté humanitaire et des bailleurs de fonds. Cet appel rentre aussi dans un cadre d'un appel global humanitaire. La même chose en RDC, on a un plan d'action humanitaire dans lequel le plan, le HAC, donc RDC, donc à 130 millions de dollars, contribue. Et donc, c'est OCHA aussi qui contribue aussi à faire ces lancements d'appels. Donc, c'est l'ensemble de cette communauté qui mobilise donc les ressources. Après, il y a effectivement du dialogue bilatéral avec des donateurs. Il y a aussi des campagnes qu'on va lancer pour essayer de faire de la levée de fonds. Donc, UNICEF passe beaucoup aussi par ses comités nationaux pour faire sa levée de fonds. Donc, tout ça contribue effectivement à mobiliser les ressources. Pour la RDC, l'année dernière, on a mobilisé plus de 50 50% de l'appel qui avait été lancé en 2015. Donc tous ces éléments dans là y contribuent. C'est jamais assez, mais ça permet quand même de sauver des vies. Et le moindre dollar qu'on peut avoir, ça permet toujours de sauver une vie.
Est-ce que vous, l'UNICEF, vous êtes optimiste pour mobiliser tous ces fonds?
Il faut qu'on soit optimiste. Donc on va mettre toute notre énergie pour mobiliser ces fonds. C'est vrai qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas très bon. Sur la RDC, effectivement, on est sur des crises chroniques avec des bailleurs de fonds qui s'essoufflent. On a aussi des nouvelles crises, donc il faut qu'on communique beaucoup plus avec l'ensemble de ses partenaires pour pouvoir mobiliser les fonds. Mais bon, pour l'instant, on arrive quand même à assister. Sur l'année dernière, on a assisté plus de 5 millions de personnes, donc c'est quand même pas négligeable. Donc avec les ressources qu'on avait, on a pu mobiliser les fonds pour sauver des vies et pour assister des personnes dans le besoin.
Très bien. Vous venez de parler de la RDC. Il faut le besoin en termes humanitaires en RDC se chiffre à 130 millions de dollars, vous l'avez dit. En ce qui concerne exactement la RDC, comment vous allez faire vos efforts pour arriver à faire autant que vous l'avez fait l'année dernière?
Alors, au sein de l'UNICEF, on a un programme qui s'appelle la réponse rapide au mouvement de population, qui est un des programmes qui contribue principalement à la réponse au mouvement de population en RDC, qui contribue pratiquement à 90%. Donc l'UNICEF est le gros contributeur sur la réponse au déplacement de population, sur l'assistance en éducation, en eau, hygiène, assainissement, en santé, en malnutrition. Donc ça, on a des bailleurs de fonds qui renouvellent leur confiance d'une année à l'autre. Donc on est déjà en train de mobiliser les fonds auprès de ces bailleurs qui sont en train de renouveler leur confiance auprès d'UNICEF. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, on est aussi en train de discuter aussi beaucoup sur des stratégies de sortie pour compte tenu qu'en RDC, on est sur des crises chroniques avec une fatigue des bailleurs à toujours financer les mêmes activités. Et donc, on essaie d'avoir des stratégies de sortie de crise avec des approches un peu innovantes qui ont déjà été testées dans le passé mais qu'on va passer plus à l'échelle. Par exemple, la distribution de cash donc auprès des familles les plus vulnérables ou sur lesquelles il est difficile de faire la distribution d'articles ménagers essentiels, par exemple. Puis, il y a un programme aussi d'appui au retour, donc des populations déplacées. Ça, c'est un premier aspect. On est aussi en train de travailler de plus en plus avec le gouvernement pour renforcer leurs capacités en matière de coordination, de réponse en urgence et aussi de pouvoir nous alerter sur des urgences. Donc ça, c'est un travail aussi pour faire prendre le relais par l'État congolais oui. Sur cette coordination de réponse en urgence.
Oui, vous parlez du gouvernement, c'est un grand partenaire et aussi vous avez d'autres partenaires pour vous aider dans ces travaux.
Alors, on travaille avec les autres agences des Nations Unies, mais on travaille aussi avec l'ensemble des partenaires.
Exemple.
Alors, ça peut être le HCR pour tout ce qui est réfugiés. Ça peut être aussi le PAM qui assiste dans la distribution de vivres. Le PNUD aussi dans toutes les questions qui sont liées à la résilience. Donc, on est au carrefour de toutes ces agences et de tous leurs programmes pour y contribuer avec effectivement un focus sur les enfants. Un des partenaires qu'on est en train de pousser, c'est la Croix-Rouge nationale qui est vraiment le partenaire privilégié du gouvernement congolais pour la réponse aux catastrophes.
Madame Brigitte, Radio Capi vous remercie.
Merci bien, bonne journée.
Province du Bas-Uélé, la Commission nationale pour les réfugiés CNR et les ONG partenaires ont repris mercredi 27 janvier dernier le travail au camp Mboti où sont hébergés des réfugiés centrafricains dans la cité d'Angos et à plus de 500 km au nord de Kisangani. C'était trois jours après le soulèvement de ces réfugiés suite au non-versement de leur ration alimentaire du mois de janvier. Explication avec Anselme Mansois.
La reprise des activités au camp Mboti a été précédée par une réunion présidée le lundi dernier par la Commission nationale pour les réfugiés, réunion à laquelle ont pris part les représentants de toutes les ONG partenaires de la CNR, l'autorité locale et les représentants des réfugiés y ont été aussi invités. Une réunion pour appeler les réfugiés au calme afin de permettre à la CNR et aux ONG partenaires de travailler dans la quiétude. Notez que le vendredi dernier, les réfugiés centrafricains, armes blanches à la main, ont pris en otage 7 agents de la CNR et des ONG partenaires pour manifester leur mécontentement suite au non-versement de cette ration évaluée à 150 dollars américains par ménage. Les policiers ont dû intervenir et tirer en l'air pour obtenir la libération des personnes bloquées dans les camps. Selon les ONG partenaires, le programme alimentaire mondial PAM qui s'occupe de cette ration n'a pas encore réagi depuis leur dernier contact le vendredi dernier. Certaines ONG partenaires déclarent qu'une suite favorable pourrait parvenir à la fin de ce mois. Depuis Kisangani, Anselme Massoua, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
La MONUSCO a-t-elle renforcé ses patrouilles à la frontière avec le Burundi et pourquoi? Question d'une consoeur de RFI mercredi dernier à Kinshasa. C'était lors de la conférence de presse des Nations Unies. Suivez cette question dans son intégralité ainsi que la réponse du porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper-Basse.
Signe Rollet de RFI, est-ce que la MONUSCO a renforcé ses patrouilles à la frontière avec le Burundi et notamment a mis en place de nouvelles positions? On parle de Kamanyola, Nyamwama, entre autres, mais quatre postes frontaliers supplémentaires. Et pourquoi?
Merci pour cette question. D'abord, il faudra remettre la question dans son contexte. C'est la situation politique et sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Burundi et qui est à la base d'une instabilité qui a provoqué le déplacement des populations burundaises vers le territoire de Fizi, particulièrement à Lusenda, où un camp de réfugiés a été mis en place et qui est en train d'être géré en parfaite coordination avec le HCR, la Commission nationale des réfugiés et aussi les autorités locales. Donc cette situation au Burundi impacte de manière négative sur la sécurité au Congo. C'est dans ce cadre-là que, aussi bien du côté de la MONUSCO que du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi de la police nationale congolaise, que des dispositions ont été prises pour non seulement sécuriser la frontière, mais aussi sécuriser et porter assistance à ces réfugiés qui sont aujourd'hui hébergés au camp de Lusenda. Il est aussi évident, Sonia, que les plans de contingence ont été depuis très longtemps élaborés au niveau de la MONUSCO, mais aussi en parfaite coordination avec les autorités congolaises. Juste pour rappel, l'ancien commandant de la force, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, avait effectué une visite à Lusenda, et hier et avant-hier, le général Jean Bayou, qui est commandant par intérim de la force, aussi s'est rendu à Lusenda, juste pour, premièrement, tester le système sécuritaire mis en place pour prendre en compte la sécurité de ces gens à Lusenda. Maintenant, vous dire avec précision où est-ce que nous avons mis nos positions, je pense que pour des raisons de sécurité opérationnelle, je me garderai bien de le faire.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Jennifer Kalongi, je suis célibataire et je poursuis mon troisième cycle professionnel en communication humanitaire et solidarité à l'Université Lyon 2 en France. Actuellement, je suis assistante en communication à l'unité relations extérieures au programme alimentaire mondial à Kinshasa. Au quotidien, j'appuie l'équipe de relations extérieures dans les activités de communication, dans une optique d'apprentissage, de renforcement de capacités et d'acquisition de connaissances. J'en profite également pour compléter ma formation académique. J'assiste aussi le point focal de l'information publique du Bureau Pays dans la conception et la production de contenu, comme les messages pour les médias sociaux, et dans l'organisation de conférences et cafés de presse. J'assiste le responsable de l'unité relations extérieures dans la préparation et l'actualisation de la stratégie de communication. Avant de rejoindre le programme alimentaire mondial, j'ai été stagiaire et bénévole dans la cellule de communication à la Caritas Congo de 2008 à 2013. Ensuite, j'ai été bénévole à l'UNICEF Lyon en France et aussi bénévole dans Village Pilote, toujours à Lyon. En fait, Village Pilote est une ONG française qui élabore et exécute des projets au Sénégal en faveur des enfants de la rue. Mon temps libre est consacré aux promenades entre amis et selon le calendrier des activités effectives françaises ou congolaises. Je consacre également une bonne partie de mon temps à la méditation de la parole de Dieu, chose primordiale dans la vie de chrétien. Question de se retrouver face à soi, à soi-même, face à Dieu et aussi face au prochain. J'aime la musique en général, en sport j'aime le tennis que je pratique après mes heures de cours. J'aime cuisiner et décorer la table avant le repas. Comme projet d'avenir, après mon stage au programme alimentaire mondial et après mon troisième cycle en communication humanitaire, j'aspire à devenir spécialiste en communication dans le secteur humanitaire et du développement afin de promouvoir le cause humanitaire, social et développement au moyen de nouvelles technologies de l'information et de la communication et aussi au moyen de la conception et de la réalisation de messages répondant à un projet de vulgarisation.
Musique. magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Dans votre agenda, notez tout d'abord du 1er au 2 février la visite en RDC du directeur général de l'ONUDI, qui est en fait l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ensuite, dans le calendrier des journées des Nations Unies, le 4 février, journée mondiale contre le cancer, et le 7 février, journée internationale de tolérance zéro face aux mutilations sexuelles féminines. Merci d'avoir suivi cette émission, une émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga était au reportage, Martin Sebujangwe à la supervision. Moi, c'est Tina Salama, je vous l'ai présenté donc. Une émission que vous pouvez suivre aussi sur le site de la Radio Capi. Il vous suffit, vous le savez, de taper sur www.radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour un nouveau numéro de magazine des Nations Unies. En attendant, excellente journée dominicale à tous. Ciao.